Europe 1, historiquement vôtre.
Alors Olivier, vous m'avez dit tout à l'heure, comme ça à l'antenne, que vous aviez l'habitude d'en mettre un peu partout. J'ai pas très bien compris de quoi vous parliez, j'ai compris que c'était la sauce soja. Vous l'utilisez un peu à tort et à travers.
Ben, je vous donnerai tout à l'heure quelques idées d'utilisation de recettes que l'on peut réaliser facilement avec de la sauce soja. Sauce soja, c'est une sauce qu'on a découvert assez tardivement en fait chez nous en France. J'ai l'impression que avant l'avènement des sushis et la mode des restaurants japonais, il n'y avait pratiquement pas de sauce soja chez nous, et alors qu'elle existe depuis évidemment bien plus longtemps en Asie. Alors elle est née en fait d'une obsession nécessaire de l'homme, qui l'a eu de tout temps, conserver cette denrée. Alors l'une des techniques connues depuis des millénaires et depuis l'Antiquité est l'utilisation du sel et de la fermentation. Ça permet de conserver de manière comestible des denrées qu'on peut avoir. Alors en Chine, ces préparations à base de sel et qui fermentaient, on utilisait du poisson, des céréales ou même des légumes, étaient appelées des jiang. Et ces jiang sont connus depuis environ 1000 ans avant Jésus-Christ, et ce sont, on peut dire, les ancêtres de la sauce soja. Parce qu'on préparait un jiang de soja, par exemple, qui était assez facile à élaborer, et dont on trouve trace dès moins 200, et il préfigure vraiment ce qu'est la sauce soja actuelle, même s'il y a eu des évolutions dans la recette, et notamment grâce aux Japonais. Alors les jiang arrivent au 7e siècle au Japon, grâce notamment à une congrégation de moines bouddhistes, dans laquelle, je crois, Davina, elle a rejoint beaucoup plus tard. Donc 7e siècle au Japon, et à l'époque, il faut savoir que la consommation de viande est interdite au Japon, et par un décret impérial.
Et le bœuf de Kobe alors?
Ça c'est venu beaucoup plus tard. Et au 7e siècle, comme cette consommation de viande est interdite, y compris les bouillons de viande, la sauce soja présente un vrai intérêt, parce que ça a un petit peu le goût de la viande, il faut bien reconnaître. Et donc c'est largement utilisé, et surtout il y a un moine qui est au XIIIe siècle, qui s'appelle Shinshi Kakunshi, et qui va partir...
Alors ça se prononce pas tout à fait comme ça, Olivier,
Pas Kakunshi.
Mais surtout c'est Kakunshi. Il faut le prononcer bien.
Lui va mettre au point la recette qui est la plus proche de ce qu'est notre recette aujourd'hui de sauce soja, et donc il va utiliser ce qu'on appelle le miso, c'est une pâte de soja fermentée, qu'il va légèrement modifier, et arriver donc à ce résultat, qu'on appelle d'abord tamari, puis soyu là-bas, qui est donc la sauce soja qu'on connaît, qui elle arrive en Europe beaucoup plus tard. Ce sont probablement les Néerlandais, avec la compagnie néerlandaise des Indes orientales, qui vont apporter chez nous cette sauce soja. Elle va se retrouver à la table de Louis XV, par exemple. C'est l'un des premiers rois français.
Ah ouais,
le premier roi français qui, en tout cas, agrémentait ses repas de sauce soja. Et puis il faut savoir, une multitude de sauces soja différentes. C'est un peu comme le vin là-bas.
Ah oui.
C'est-à-dire qu'en fonction de la qualité des soja, en fonction de la durée de fermentation, de l'utilisation des produits, on a des sauces soja de qualité très très différentes.
Mais dans les grands restaurants japonais, ça veut dire qu'ils vous apportent une sauce soja, vous avez une carte des sauces soja?
Non, mais eux font des choix de sauces soja, et croyez-moi, c'est pas celle qu'on vend, nous vend au supermarché chez nous, qui vaut pas très cher, qui est de la sauce soja industrielle, dont la fermentation est accélérée, est faite en 2-3 jours, alors que dans certaines grandes sauces soja japonaises, la fermentation peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, et que cette fermentation amène de la complexité et de la profondeur.
Je pourrais boire la sauce soja toute seule.
Alors, un petit fun fact, c'est que vous savez, ici, quand on va dans un restaurant à sushi, on vous demande généralement
sucré ou salé.
Eh bien, la sauce soja sucrée, si vous la demandez au Japon, on ne vous l'apportera jamais, car elle n'existe pas. C'est exactement comme le spaghetti bolognaise en Italie. On va vous rire au nez. Fabriquée, c'est ça le
spécialement
paradoxe,
pour nous,
par une société japonaise, spécialement pour le marché, notamment européen ou américain, parce qu'eux ne la mangent pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec la sauce soja, si j'ai encore 2-3 minutes? Évidemment, des marinades avec du miel, des épices, par exemple pour les travers de porc ou de la volaille. Essayez une vinaigrette avec de l'huile de colza, du wasabi, du vinaigre de riz, de la coriandre et de la sauce soja, qu'on mélange tout ensemble. C'est une touche très asiatique et c'est pas mal pour assaisonner une salade. évidemment, un wok de légumes ou du riz sauté, tout simplement, du riz que vous avez cuit, des petits légumes, faites sauter tout ça dans un petit peu d'huile et vous rajoutez un large trait d'une bonne sauce soja. Pas besoin de saler, vous l'avez dit, soja est elle-même assez salée et elle donne vraiment du goût aux aliments. Quand vous faites un régime, mon cher Stéphane, et que vous trouvez que vos aliments sont un petit peu fades, un peu de sauce soja, c'est zéro calorie et ça donne beaucoup de goût.
C'est un peu salé, hein, quand même.
C'est un petit peu salé. Faites de la rétention d'eau.
On va savoir sur tous les problèmes que peut rencontrer Stéphane.
J'ai aucun problème. J'essaie de sculpter mon corps, pour être aussi beau que vous.
Oh mon Dieu, l'été prochain, alors on fait un défi. Le défi est lancé, on fera une photo. Merci Olivier, on peut retrouver toutes vos recettes sur le site europe1.fr.